Du 2 au 8 avril, c'est Utilité publique, thématique de la grenouille, en partenariat avec l'Accès, Messe-Basse et chezalbert.fr. En semaine à 9h et 18h et tout au long du week-end. Bonne écoute!
Le 19 janvier 2012, l'École nationale supérieure du paysage de Versailles organisait à Marseille un colloque sur le thème « Le partage de la création des espaces publics, concertation, participation, coproduction ». Un colloque initié par Étienne Ballan, sociologue, enseignant à l'ENSP de Versailles et fondateur de l'association AREN, qui mène à Marseille et dans la région depuis 1999 un travail visant à favoriser la participation des habitants dans les processus de concertation. AREN a été notamment à l'origine à Marseille du festival L'Art des Lieux qui a existé entre 2002 et 2006. À l'occasion de la thématique sur la participation citoyenne dans les projets urbains toute cette semaine sur les 3-8, nous lui avons posé quelques questions sur son engagement dans ce domaine et sur ses notions de concertation et de participation. Étienne Ballan.
Je pense que c'est l'intérêt au départ, sans faire de psychanalyse, c'est l'intérêt au départ pour les idéaux de la Révolution française et de la Commune de Paris, c'est-à-dire que la rencontre avec des moments historiques où on sent que, qu'il y a une vraie émancipation et une vraie prise de pouvoir. Et moi je pense, après, c'est construit, mais moi je pense que notre société elle est en difficulté sur ces questions du partage du pouvoir. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on s'est beaucoup intéressé au partage des richesses, et bien entendu, on s'est beaucoup intéressé au partage des savoirs. Et puis, on a laissé sous le tapis, pendant deux siècles, ou un siècle et demi, un peu plus, la question du partage du pouvoir. Or, je pense qu'être heureux dans une société, c'est se sentir aussi partie d'un collectif, et que ce collectif, dans ce collectif, il y a un vrai partage, quoi. Donc, c'est une vision très idéale, peut-être idéologique aussi, très idéalisée, en tout cas, d'être un être dans un groupe, quoi.
Alors la question du partage de pouvoir, c'est une question politique, mais que toi, dans tes travaux, dans tes projets, tu appliques spécifiquement à la question urbaine et environnementale.
Oui, voilà, parce que ce que je trouve intéressant, et c'est un peu ce qui fait aujourd'hui l'unité, on va dire, de mon travail, c'est que la question environnementale, ou du cadre de vie, mais l'environnement en particulier, elle bouscule. C'est quelque chose de jeune. C'est un processus jeune qui a donc à peu près un demi-siècle d'existence et qui bouscule beaucoup les choses, qui bouscule les décisions publiques. C'est-à-dire qu'on dit l'environnement, on doit essayer d'en prendre un petit peu soin, donc on fait pas n'importe quoi. Donc ça oblige beaucoup de gens à se remettre en question. Et pour moi, l'environnement, c'est un peu le cheval de Troie de la démocratie. C'est-à-dire que par l'environnement, quelque chose qui est accepté aujourd'hui par à peu près tout le monde, on peut rediscuter des modes de gouvernement, des modes de décision, du partage du pouvoir et du pouvoir en général. Et c'est ça que je trouve assez formidable. Donc je suis très profondément environnementaliste, écologiste, mais aussi pour toute la dimension de réforme et subversive que peut avoir l'environnement pour nos modes de faire, quoi.
Par exemple ?
Prenons un exemple, c'est la question environnementale, par exemple, qui a amené autour des pollutions, qui a amené plusieurs choses, qui a amené d'abord la critique du savoir expert, c'est-à-dire que l'expert ne sait pas tout et il s'est planté sur les pluies acides, la couche d'ozone, l'amiante, voilà. Ça, c'est un premier truc que l'environnement a fait exploser. Donc aujourd'hui, il y a bien sûr de l'expertise, mais nécessairement, elle est pluraliste, elle est partagée. L'expertise, elle devient une discussion, elle est faite par la discussion. C'est plus juste je sais, c'est comme ça. On sait que l'industrie nous a baladé avec une pseudo-expertise sur l'amiante pendant un siècle, et résultat, il y a 10 000 morts par an. Donc tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont claires. Et ça, c'est vraiment la question environnementale, je pense, qui l'a amené. Mais aujourd'hui, par exemple, la question environnementale sur l'agriculture, le fait que avec la montée des eaux et avec un certain nombre la croissance démographique, il faut se réintéresser à la question agricole et au sol. Et du coup, c'est par l'environnement qu'on finalement on réfléchit à la ville comme étant quelque chose qui devrait peut-être arrêter de grignoter la campagne, et on réfléchit à comment vivre peut-être à plus nombreux dans un espace restreint, mais avec une qualité de vie tout aussi intéressante, voire plus intéressante qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi des questions environnementales, peut-être globales, enfin souvent globales, qui viennent réinterroger les choses. Et là, il y a des choses extraordinaires qui se passent et qui permettent, du coup, si l'enjeu, c'est plus juste de napper du pavillon pour répondre aux demandes individuelles des gens, hein, tu veux ton pavillon, bah tiens, je te le donne, je bouffe de la terre agricole, et voilà. Si au contraire, l'enjeu maintenant, c'est de dire, bah, on peut plus bouffer de terre agricole, donc ton pavillon, tu l'auras pas, et bah, du coup, on rentre dans une discussion avec la personne. Bon, bah, t'habiteras peut-être pas en pavillon avec un petit jardin et une maison au milieu de la parcelle, par contre, on peut peut-être imaginer ensemble des solutions d'habitat collectif, soit des solutions, en fait, qui satisfont complètement tes besoins individuels, mais qui satisfont aussi un voisinage, des relations humaines, relations sociales, voilà.
Oui, mais alors là, du coup, la participation, c'est essayer de faire passer des options qui sont déjà des convictions auprès de populations qui sont plus préoccupées par leur intérêt individuel.
Non, mais c'est bien une des ambiguïtés. C'est-à-dire, on dit toujours à ceux qui font de la participation, mais finalement, vous voulez toujours la parole des citoyens, elle est sainte. En gros, participation, ça veut dire je suis ce que les gens veulent. Mais ça, personne ne peut dire sérieusement ça. La participation, c'est je construis un dialogue qui aboutit de préférence à une décision, voire une décision d'abandonner des choses d'ailleurs, mais qui aboutit à des décisions. Et les gens, les citoyens sont comme tout le monde. C'est pas des gens qui veulent ça, qui n'en démordent pas. C'est des gens qui discutent, qui sont très, très parfaitement capables de considérer que bah, dans les conditions, etc., de partager d'abord des connaissances, un diagnostic des choses, de le faire, de contribuer à le faire. Et ce que disent les citoyens, c'est pas juste « je veux ma satisfaction à moi ». Enfin, en gros, c'est un peu ce qui m'énerve beaucoup quand on critique la participation. On dit, mais de toute façon, vous voulez donner le pouvoir aux réflexes les plus individualistes des gens et à leur défense d'intérêts particuliers. Ben, n'importe qui fait un processus de participation, il sait très bien que ce qui se constitue dans le processus de participation, c'est certainement pas simplement la somme des intérêts particuliers. C'est autre chose. C'est, alors appelle-le comme tu veux, un intérêt collectif, une conscience commune, c'est produit par l'intelligence collective. Il faut faire un minimum confiance aux gens, considérer qu'ils ne veulent pas que leur petit bien-être. C'est tout. Et si tu places la personne en tant que citoyenne, justement, elle s'intéresse à la chose publique. Moi, j'ai vécu ça des dizaines de fois, où en réalité, on me dit « Ah là là, mais ils vont tous vouloir ça ». Et au final, le processus de participation, parce que c'est un processus, il aboutit à quelque chose de totalement différent de ce qu'on pouvait imaginer au départ, comme étant la somme des volontés individuelles.
On a des exemples à Marseille assez récents sur le parc national des Calanques, un peu moins sollicité sur l'espace Vieux-Port. Quels sont tes regards, par exemple, sur ce parc national des Calanques et sur la participation privée ?
Alors, c'est des choses, c'est assez différent comme contexte. Si tu veux, je veux juste parler un instant de la question urbaine avant de parler des Calanques. La question urbaine, c'est que, oui, malheureusement, nos élus aujourd'hui sont partis dans un délire avec les star architectes qui dessinent Marseille. C'était le titre d'un journal de Romède, c'est-à-dire qu'effectivement, les architectes, on leur demande de faire voir l'argent et le pouvoir des grands élus, et on est à rebours de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est ce que faisait à la limite Barcelone ou certaines villes, mais il y a 20 ou 30 ans. Il n'y a que Marseille pour croire encore qu'un grand nom avec beaucoup de pognon, c'est ça qui fait une ville contemporaine. Donc, bon, c'est malheureux, c'est comme ça. Le Vieux-Port, il sera évidemment transformé par les usages, espérons-le. C'est vrai que, le projet finalement qui a été retenu, il a été retenu non pas par sa qualité sur l'usage ou quoi que ce soit, il a été retenu juste parce que c'est un grand nom et qu'il fait plaisir au maire, point. Moi, je veux qu'on sorte de cette logique-là d'aménagement. C'est pas le but d'un projet, c'est pas de faire plaisir à un maire. Il faut arrêter ce type de délire. Il y a une population derrière, quand même. Donc ça, c'est la première chose. Sur les Calanques, il y a eu une petite erreur assez sérieuse des concepteurs de la participation sur les Calanques. C'est qu'ils ont pensé que c'était un sujet technique et que c'était un conflit d'usage. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'il fallait juste concerter entre des gens sur la pratique qu'ils avaient, donc entre eux, les bateliers, les chasseurs, les écologistes, etc. Donc on a pris ça comme un conflit d'usage. Donc du coup, on se réunit et on négocie. Le problème, c'est que les Calanques, c'est pas qu'un usage, c'est pas qu'un espace utilisé, c'est un espace représenté, c'est un espace hyper important, politiquement, humainement, pour toute la ville, et même à l'échelon même national et international. Et donc, les gens qui ont fait la concertation, en fait, ont pensé qu'il suffisait de mettre autour d'une table des intérêts bien compris pour qu'on arrive à un résultat. La participation, c'est pas ça. La participation, c'est pas une négociation. participation, c'est poser les questions publiquement et donc politiquement. Alors évidemment, au fil de l'eau, si je puis dire, quand la négociation marchait plus ou ne satisfaisait plus les gens, ils allaient dans la presse pour dire c'est une honte, ils montaient en flèche des oppositions, et du coup le débat s'est déplacé dans la presse et dans l'espace public. C'était tout à fait prévisible. Juste, on fait pas de la participation comme un truc bien réglé, comme une recette de cuisine dont il sortira toujours le même goût, quoi. Ça marche pas. Et surtout, la clé, c'est que c'est pas une négociation. La participation, c'est quelque chose qui amène à une vision inclusive de la démocratie. C'est-à-dire que c'est amener les gens qui s'intéressent. Et le simple Marseillais, par exemple, s'intéresse au Calanque. Même s'il y va pas souvent, il s'intéresse au Calanque. On aurait peut-être pu lui poser des questions, ou animer un débat avec lui, faire des choses avec lui, avec eux, et puis même au-delà des Marseillais, avoir un débat national sur qu'est-ce que c'est qu'un espace naturel aussi extraordinaire dans une ville. Mais bon, ça fait plaisir à tout le monde, quand tu dis aux bateliers, aux touristes, aux écolos, aux chasseurs, tu dis, on vous met à la table des négociations, quelque part ça veut dire, c'est un peu à vous, ce territoire. Alors ça leur ferait très plaisir, ils sont très reconnaissants de ça, et du coup, il n'y a plus personne après pour ouvrir le débat à une dimension plus large.
Étienne Ballard, une dernière question. Aujourd'hui, cette question de la participation semble être prise en compte différemment dans les services de l'État et dans les services des collectivités locales ?
Oui, dans les collectivités, alors pas encore beaucoup dans nos collectivités en PACA, mais ça va venir sans doute. Dans les collectivités, il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'élus qui considèrent qu'on ne peut pas seulement être un autocrate de la proximité, qu'on ne peut pas nécessairement toujours chercher juste à visibiliser son pouvoir. Et donc il y a beaucoup de collectivités qui se posent la question sur des nouvelles façons de faire. Donc Agenda 21, Plan Climat, des choses comme ça, qui amènent, et notamment à Marseille par exemple, c'est des choses qui ont amené tout d'un coup à refaire des réunions publiques. On n'en faisait plus à Marseille, parce que les élus ont tellement peur de la population qu'on avait arrêté de faire des réunions publiques. Là, depuis 2 ans, il y a une nouvelle réunion publique. Alors, elles n'ont pas beaucoup d'enjeux, elles ne servent pas à grand chose encore, mais c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on redemande au corps social, finalement, ce qu'il pense. Bon, là, aujourd'hui, on lui redemande bien tard et pas vraiment pour prendre son avis. Mais il faut faire confiance aux peut-être pas aux élus, mais plutôt au corps social pour qu'ils s'imposent.
Et pourquoi il n'y a pas la même logique dans les services de l'État qui s'impose ?
Parce que dans les services de l'État, on n'a pas encore totalement soldé la question de l'intérêt général, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et l'État a édicté des lois sur la participation que les services de l'État ne connaissent pas. Donc forcément, ils n'ont pas le sentiment de devoir les appliquer.
C'était Étienne Ballant, sociologue, fondateur de l'association AREN et enseignant à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. On aura l'occasion de revenir sur le projet de parc national des Calanques, évoqué dans cet entretien à travers une émission spéciale qui sera diffusée ce vendredi 6 avril à 18h. Mais nous vous proposons pour l'instant d'écouter un autre intervenant présent le 19 janvier à Marseille à l'occasion du colloque Le partage de la création des espaces publics, concertation, participation, coproduction. Il s'agit de Fabien Bressan, délégué général des Robins des Villes. Né en 1995 du côté de Lyon à la suite de manifestations d'étudiants d'école d'architecture et à des rencontres qui s'en sont suivies sur le cadre de ville à Vaux-en-Velin en 1996, l'association Robin des Villes travaille depuis une quinzaine d'années dans la recherche, la médiation, la sensibilisation et l'action sur le thème du cadre de ville. À leur actif, la course des voraces à Lyon en 1998 avec 40 000 briques Lego, le projet L'Oreille et la Ville à l'hôpital Desbrousses, toujours à Lyon, une mobilisation autour de la destruction de la muraille de Chine à Saint-Étienne, des actions à Montceau-les-Mines, des regards croisés à Vaux-en-Velin, des ateliers action à Échirolles. Aujourd'hui, les Robins des Villes ont des antennes à Paris et à Marseille. Son délégué général Fabien Bressan était donc présent à Marseille au mois de janvier pour le colloque organisé par l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Nous avons profité de l'occasion pour lui poser quelques questions sur l'expérience des Robins des Villes. Les Robins des Villes, donc, c'est des gens qui prennent aux riches pour donner aux pauvres ?
Ouais, c'est des gens qui essayent de redonner la ville à ses habitants. Il y a une période de construction de l'asso militante, bénévole, etc. Et puis une période de professionnalisation qui essaye de s'appuyer sur cet aspect un peu historique qu'on essaye de garder un peu en esprit, et du coup une évolution un peu traditionnelle ou classique du milieu associatif.
Et qui implique deux approches différentes de la participation ?
Pas forcément différentes, mais en tout cas complémentaires. C'est-à-dire une approche originelle qui était très... correspondait aussi à de grosses sollicitations de groupes d'habitants qui étaient en demande, mais parce qu'en fait, en phase 2, ils ne trouvaient pas de réponse. Et une approche plus maintenant qui correspond plus à une approche... parce qu'aussi, il y a beaucoup plus de collectivités et de professionnels qui sont aussi en demande de ce genre de choses, pas que des habitants, et qui du coup est plus... dans les circuits un peu plus institutionnels, tout en étant quand même, il n'y a quand même pas beaucoup de ce type de démarche, et ça reste quand même très original malgré tout.
Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de l'aide à la décision des collectivités publiques sur les projets d'aménagement urbain ?
Il y a de ça, mais il y a aussi la même chose, et presque pour nous toujours plus la même chose côté habitants, c'est-à-dire il y a aussi dans l'ensemble de nos activités l'idée que on est 85 et 90% de la population française à vivre en ville, et que mis à part faire des études spécialisées, on n'en a aucune approche, et toutes nos activités auprès des enfants et du grand public, en dehors de nos activités purement de concertation, c'est aussi la découverte de ce milieu. L'idée étant que les gens aient des clés de lecture pour après être d'autant plus armés pour y participer.
Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les Robins des Villes dans ces dispositifs de participation ?
Le premier, c'est d'essayer justement tout le temps d'allier ce côté un peu professionnel, entre guillemets, d'arriver à avoir des méthodes ou des outils pour arriver à faire émerger une parole habitante, tout en ayant donc inscrit aussi et payé par des collectivités ou des bailleurs, etc., tout en continuant à avoir essayé un engagement qui est de défendre la parole des habitants, et qui parfois se traduit encore par des projets purement bénévoles où on va aider des habitants sur la protection d'un patrimoine, contre un projet, ça, il y en a encore. Ça, c'est une grosse difficulté, cet alliage 2, ce qui nous demande, nous, en interne, d'essayer d'appliquer déjà sur nous ce qu'on essaye de faire extérieur, c'est-à-dire d'essayer de débattre entre nous. Et je pense que tout le monde ne le fait pas, donc on a encore cette chance-là en interne. Ça, c'est une grosse difficulté. La deuxième difficulté, c'est la question du financement, qui n'est pas propre à Robins des Villes, mais propre au milieu associatif actuel, qui est qu'il faut arriver à chercher à manger pour chacun à la fin du mois. Donc, ce n'est pas forcément évident tous les jours, mais voilà, c'est un bon apprentissage de la vie aussi. Et puis, après, des difficultés un peu que tout le monde rencontre, c'est-à-dire que de temps en temps, on arrive dans des projets où malgré les bonnes volontés des élus, de certains habitants, des professionnels, les situations personnelles après les habitants, notamment quand on intervient sur des quartiers en grande précarité ou sur des thématiques comme l'habitat nomade ou éphémère, où les histoires de vie peuvent avoir une influence sur nos histoires personnelles qui va au-delà de notre métier et qui peut toucher.
La participation peut être aussi, sur certains dispositifs, difficile à obtenir de la part des populations, non ?
Oui, mais moi je pense pas que ce soit un problème. Nous, on a coutume de dire qu'on essaye d'offrir le maximum d'espace et d'outils pour que les gens viennent dialoguer, débattre, proposer. Et en même temps, on défend le droit que le premier droit de la participation, c'est de ne pas participer. Donc s'ils n'en ont pas envie, ils n'en ont pas envie et point.
Qu'est-ce que c'est pour les Robins des Villes, les habitants ? Est-ce que c'est aujourd'hui le nouveau terme pour désigner les citoyens ? Et quelle est leur place vraiment spécifique dans un processus de concertation ? Certains disent qu'ils sont assignés à un rôle de maîtrise d'usage et que du coup, on se plante un peu en faisant appel aux habitants de cette façon.
Ouais, alors nous, on va laisser ce débat pour les chercheurs sur les terminologies. On a du mal à rentrer dedans. Alors c'est pour ça que nous, on dit habitant, une fois usager, une fois citoyen. J'en sais rien. En fait, c'est les gens. Voilà, les gens, quels qu'ils soient. C'est un débat que je trouve très intéressant, mais qui, pour nous, à l'implication sur le terrain, on ne l'utilise pas forcément tous les jours. On a d'autres préoccupations. Par contre, sur le deuxième aspect, la question de la maîtrise d'usage, il y a encore peu de ce type de démarches. Elles sont bien souvent cotonnées effectivement à la question de la reconnaissance et de la mise en valeur de la maîtrise d'usage, ce qui pour nous est très important et qui pour nous par contre n'est qu'un premier pas. C'est-à-dire que oui, c'est super important, mais il ne faut pas que ça en reste là. Et nous, on commence par mettre en valeur l'usage, mais on ne s'est jamais arrêté à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on passe toujours derrière sur Maintenant qu'on a parlé de l'usage, bah, on va parler de l'avenir. En gros, maintenant qu'on a parlé de l'actuel et du passé, qu'est-ce qu'on fait demain ? La question de l'usage, après, étant complètement disséminée, diluée, intégrée dans la question du projet, qu'il soit urbain, voire social, culturel, etc.
C'est une interview avec Fabien Bressan, délégué général des Robins des Villes, dans le cadre de la thématique autour de la participation citoyenne qui a lieu toute cette semaine sur les 3 minutes. Les Robins des Villes sont intervenus sur Marseille, sur le périmètre d'Euroméditerranée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé sur ce périmètre et le travail que vous avez effectué ?
Ah bah, ça a été une super expérience. Déjà, source d'énormes débats en interne chez nous, savoir si on allait répondre à cet appel d'offres en 2006, si je ne m'abuse. Ceux qui voulaient y répondre ont du coup entre guillemets remporté le morceau, donc derrière on a suivi.
Et c'était quoi le débat à l'époque ?
Est-ce qu'on allait travailler pour ce grand méchant loup qui était le Euroméditerranée, cette espèce de structure supra-communale, enfin bref, un truc, un espèce d'ovni, sur le contenu du projet urbain en lui-même, qui nous posait quand même pas mal de problèmes, notamment sur le réaménagement des logements du centre-ville.
La rue de la République, quoi.
Par exemple. Tout en sachant que quand nous a répondu à l'appel d'offres, on a essayé de s'assurer, soit auprès d'Euromed, soit auprès des structures locales avec qui on a répondu, qu'il y avait une ligne dans l'appel d'offres qui nous intéressait, qui était ces ateliers de sensibilisation seront déconnectés, ça c'est pas de la com sur le projet urbain, de Remède, ça sera simplement illustré et les sorties se feront sur le périmètre, mais les thématiques elles seront pas du tout forcément liées à ça et il n'y aura pas du tout de communication d'une part, donc ce sera indépendant, et deuxièmement ça sera une première marche vers un dispositif de participation et de concertation, et c'est là qu'on s'est complètement fourvoyé et trompé très sincèrement, puisqu'il n'y en a jamais eu. On a été beaucoup critiqué à juste titre sur ce côté là on a par contre beaucoup essayé beaucoup de le faire passer en interne, et on a eu des difficultés et ça n'a jamais émergé. Alors on est très content quand même de notre activité de sensibilisation parce qu'on a touché énormément de gens, on a travaillé avec des publics complètement différents, des écoles, des maisons de retraite, du grand public, des salariés, des gens en insertion, des MJC, des centres sociaux, des écoles, enfin bref, énormément de gens, ce qui nous a permis d'avoir plein de regards différents, mais on n'a jamais eu de mission de récolte de ce qu'on disait. On a quand même, je pense, contribué à la diffusion d'une information et de manière la plus neutre possible, c'est-à-dire qu'on n'a jamais donné notre avis personnel sur le projet, mais on n'a jamais défendu le projet urbain en tant que tel, ce qui a permis, je pense, à beaucoup de collectifs ou d'associations de venir à ces ateliers, découvrir, creuser un peu la question pour ensuite, après, participer à des réunions publiques ou à des conférences de presse où là, ils ont pu aller donner leur avis. Donc ça, je le tirerai un peu comme un point positif malgré tout. Et le deuxième point très positif, alors que c'est pour nous en interne, c'est qu'on s'est confronté pendant 4 ans à cette énorme machine. Il y a eu beaucoup de débats, on a failli se faire virer plusieurs fois. On a eu des personnes de Robins des Villes qui ont été persona non grata sur ce projet, hein, qui n'ont plus le droit de revenir les années d'après. Et puis, finalement, ça nous a permis aussi de découvrir un peu le milieu marseillais qu'on ne connaissait pas tant que ça, de voir plein de contacts, plein de rencontres. Et puis, les gens se sont bien rendus compte qu'on n'était pas une boîte de com pour Euromed au fur et à mesure. Ça a demandé beaucoup d'échanges et débats, mais finalement, ça l'a créé. Et chez nous, en interne, ça nous a donné aussi énormément d'expérience. Et je dois avouer qu'on a, pour l'instant, on n'est pas reparti dans ce type de projet.
Mais il y a des projets à venir sur Marseille quand même pour les Robins des Villes ?
Ouais, on a une antenne à Marseille. Avec quelqu'un, un bureau et quelqu'un qui est en permanence. On a des projets dans le cadre de Provence 2013, notamment avec Arène, Tête de l'Art, Résurgence, donc des projets sur des quartiers nord. On a des projets sur la question du risque d'inondation dans la vallée de Luvonne, donc via des balades géographiques. On a des projets sur les Hauts-de-Mazargues, de coproduction d'espaces publics avec des habitants, et puis voilà, encore plein d'autres choses qui sont en train de se créer. Donc, qui ressemble un tout petit peu plus aux activités de Robins des Villes que ce qu'on a pu faire pour Euroméditerranée, mais qui n'aurait pas été forcément possible sans non plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye un discours un peu tempéré par rapport à ça, surtout que c'est beaucoup plus facile pour l'avoir vécu et maintenant avoir du recul depuis qu'on n'est plus dans le dispositif.
Une dernière question, en tant que délégué général des Robins des Villes, comment tu imagines l'avenir de la participation en France ?
Bah, y a une chose, je pense que c'est pas une tarte à la crème, fondamentalement. C'est-à-dire que vu ce qui se passe dans les autres pays européens, plutôt proches de nous certains, et ce qui se passe au niveau presque mondial, et même sans parler d'Amérique du Sud au niveau urbain, y a un moment ou un autre, de toute façon, ça transpire. Et voilà, il y a en plus une réelle demande sociale, très sincèrement, pour en vivre quand même pas mal. Les gens sont en demande de participation. Après, sur l'urbain, c'est tellement neuf, il y a tellement de choses à faire qu'il y a encore beaucoup à explorer, je ne me fais pas de soucis là-dessus. N'empêche que nous, on est en combat sur plusieurs choses, sur sa réelle pertinence, son réel impact sur le changement de la décision politique. Qu'est-ce que ça a comme influence sur la réelle vie politique? Et du coup, quel sera son changement d'échelle? Et est-ce que ces questions de participation ne vont pas justement s'arrêter qu'à la couleur de boîte aux lettres et un jour passer sur des enjeux beaucoup plus importants? Il y a quand même un mouvement qui va vers là, mais c'est quand même pas très rapide. On en voit un changement aussi dans la formation universitaire, où on est, nous, personnellement, de plus en plus appelés à intervenir sur ces questions-là, ou alors dans des formations d'agents de l'État, etc. Donc il y a une réelle prise en compte quand même qui se fait au-delà de simplement de l'annonce, ce qui n'empêche pas qu'on voilà, on est en combat assez continuel avec la com, par exemple. Surtout la com institutionnelle, qui peut avoir certains avantages, mais qui est tellement prégnante, alors que pour nous, elle ne devrait être qu'un outil au service de tout ça. Voilà, on a des gros combats avec les privés, notamment avec les promoteurs privés qui croient très peu et qui ne veulent pas en entendre parler, justement parce qu'ils veulent aller vite pour rentabiliser. C'est un des acteurs qui pourtant est fondamental dans l'aménagement urbain qui est très absent de ce genre de démarche, donc il y a encore du chemin. Encore du chemin, mais en même temps, on ne ferait pas ce qu'on fait si on n'y croyait pas un minimum.
C'était Fabien Bressan, délégué général des Robins des Villes, une interview réalisée à l'occasion du colloque sur la participation citoyenne dans les projets urbains organisé en janvier 2012 à Marseille par l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Pour aller plus loin, le site internet des Robins des Villes est robinsdesvillestoutattaché.org et l'antenne marseillaise des Robins des Villes se trouve au 6 boulevard du Gommier dans le 1er arrondissement. Vous avez également pu entendre dans cette émission Étienne Balland, sociologue enseignant à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et fondateur de l'association AREN. Pour aller plus loin, le site internet de l'association AREN est arenaupluriel.org.
Du 2 au 8 avril, retrouvez la thématique Utilité publique sur les ondes et sur le www.radiogrenouille.com.